Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Je suis Paulette Samvelian, ou Samvelian si vous voulez, professeure de linguistique à l'Université Sorbonne Nouvelle, et Pega, qui est ici aussi avec moi, Pega Fariri, est actuellement postdoctorante à l'Université de Cologne. Nous sommes toutes deux locutrices du persan, donc comme langue maternelle, moi étant en plus bilingue persan-arménien, donc déjà... Je pense qu'à partir de nos prononciations, vous les enseignants, vous comprenez un tout petit peu la différence par rapport au français et éventuellement les différences phonologiques et ce qui pourrait éventuellement poser problème à un apprenant du persan qui arrive en France. Ah oui, il faut dire qu'il y a l'affiche que vous pouvez, voilà, vous pouvez suivre sur l'affiche, s'il vous plaît. Et je vais reprendre dans ces grandes lignes l'affiche que vous avez déjà. Voilà, donc... Le persan est une langue qui est parlée par une communauté de locuteurs assez importante. Bon, sur l'affiche, c'est marqué 75 millions. En fait, il est extrêmement difficile d'évaluer le nombre dans la mesure où, dans la plupart des pays où le persan est parlé comme langue officielle, il s'agit des communautés plurilingues. Donc, il est extrêmement difficile d'évaluer exactement quels sont les locuteurs persanophones a priori. Mais en tout cas, c'est la langue officielle dans la République islamique d'Iran, en Iran, en Afghanistan et au Tadjikistan. Sachant qu'il y a, comme vous pouvez l'imaginer, une variation dialectale assez importante, c'est-à-dire que ces trois pays ayant une histoire récente qui est séparée, ces trois langues ont évolué assez différemment. Le Tadjiki, ce qu'on appelle le persan du Tadjikistan, le Tadjiki a été plus influencé par le turc et le russe. Le persan, ce qu'on appelle le Dari, c'est-à-dire le persan parlé en Afghanistan, il restait peut-être plus proche du moyen perse. Et le persan d'Iran a beaucoup évolué, c'est beaucoup simplifié aussi à beaucoup d'égards, dans la mesure où ça a été une langue qui a été parlée, qui est parlée toujours, par des communautés qui, elles, ont des langues maternelles différentes. Voilà, donc nous, en fait, l'affiche, on l'a préparée sur le persan d'Iran, dans la mesure où nous sommes toutes deux d'Iran. Il y a bien sûr des différences par rapport aux persans parlant en Afghanistan. Je suppose que pour vous, les enseignants et les membres des associations, c'est essentiellement des immigrés afghans que vous accueillez. Bon, il y a des différences. Les différences sont plus ou moins importantes, mais il faut savoir que ces deux langues sont intercompréhensibles. Nous comprenons assez bien le persan parlé par les Afghans. Et les différences, c'est essentiellement... Bon, il y a des différences phonologiques, bien sûr, mais il y a aussi, comme toujours, quand les langues se différencient, il y a aussi une différence dans le lexique. Voilà. Et une partie des propriétés morphologiques. Sinon, c'est essentiellement, les deux langues peuvent toujours être appelées ou désignées par l'étiquette persan. Je vais suivre l'organisation de l'affiche, et donc je vais commencer par les éléments de phonologie. Bon, le persan est une langue indo-européenne. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas énormément de différences. En fait, je vous dirais que pour la phonologie, ce qu'on appelle la phonologie segmentale, il n'y a pas énormément de difficultés pour les locuteurs persanophones. Les différences se situent, comme c'est marqué dans le fiche, il y a moins de voyelles qu'en français. Donc, le persan dispose de très peu de voyelles, finalement. En fait, il y a les voyelles donc, principales, A, I, O, U, E, voilà. J'ai tout dit, non ? Bon, ah si, il faut, donc les différences, effectivement. Il y a une différence phonologique entre le A ouvert ou antérieur et le A postérieur. Donc ça, c'est vraiment une différence phonologique très marquée en persan. Ce qui fait que pour un locuteur qui apprend le français, ça ne pose pas de difficulté, mais ils auront peut-être tendance à utiliser une des variantes. Donc soit le A, qui est vraiment le A. Avec le, en français, on le rendrait avec un accent circonflexe, probablement, et le A. Et donc, en disant, par exemple, pot ou pat, on dit vraiment deux mots différents en persan, sor et sar, et bar et bar. Donc voilà, ça c'est une différence phonologique et c'est là peut-être là où la personne disposerait d'une opposition qui a quasiment disparu. En tout cas, moi je n'entends plus chez le locuteur francophone cette différence entre le A de pâte et de pâte, par exemple. Voilà. Sinon, pour les autres voyelles, la personne dispose d'un nombre moins important de voyelles que le français et toutes ces voyelles intermédiaires comme le E, un peu plus fermé ou ouvert, n'existe pas, plus le U qui n'existe pas. Donc, comme c'est marqué, comme c'est indiqué dans l'affiche, la différence entre sûr et sourd est quelque chose qui peut ne pas être perçu par les locuteurs du persan, ou pur et pour, hein, dur et dour. Donc voilà, ça c'est une difficulté. Idem pour de et do. Par exemple, peu et peau. Peu, un peu, et j'ai renversé le pot de lait. Donc ça, c'est des différences que les locuteurs sont soit incapables de percevoir, entendre, soit incapables de produire. Donc voilà les différences phonologiques qui pourraient poser problème. Donc vraiment, j'insiste, là où il y a des difficultés, c'est du côté des voyelles. Pour les consonnes, à ma connaissance, il n'y a pas de difficulté. Il y a toutes les consonnes du français existent en persan. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Oui, oui, mais bon. Là, en fait, phonologiquement, ça ne pose pas de problème pour la compréhension, en fait. Pour la production, effectivement, ça pourrait poser... C'est, en fait, ce que Pega disait, c'est sur « re ». Donc, en fait, ce n'est pas exactement le même « re » qu'en français, mais ça ne pose ni de problème d'identification des mots, ni de problème a priori de production, dans la mesure où il n'y a pas de différence phonologique pertinente sur cette consonne-là en français. En plus, en persan, il y a des consonnes qui n'existent pas en français, comme « re », par exemple, comme « tche ». Voilà, sinon... il me semble que les consonnes ne posent pas de problème. Comme c'est également indiqué dans l'affiche, une autre difficulté, c'est que le persan n'a pas de groupe consonantique d'attaque. Par exemple, crème, vous entendrez les locuteurs persanophones prononcer. Non, arménien, parce que pour moi, ça ne pose pas de problème. Comme en arménien, il y a des groupes consonantiques, au contraire, très, très lourds. Mais, bon, Pegor va le prononcer, parce que moi, je n'arrive pas à le faire comme les vraies personnes.
Je préfère le faire, kerem, voilà. Keravot.
Fais plus, enfin, on n'entend pas très bien.
Kerem ou keravot.
Voilà, donc dire cravate.
Ou, plus avec les séquences qui commencent par le S, par exemple, stratégie au lieu de stratégie,
voilà.
Ces séquences-là.
Donc, quand il y a à l'initiale des consonnes qui se regroupent, il y a automatiquement l'insertion d'une voyelle soit à l'attaque.
Voilà. Avec le S, c'est à l'attaque, mais après, le S, c'est épenthétique.
Voilà, comme Kerem, comme elle a dit, c'est ça, c'est comme
Kerem, je sais. J'aime bien se moquer de moi.
Ou voilà, ou esport, ou stratégie, etc. Donc voilà pour la phonologie. Si vous n'avez pas de questions, je passe à la suite. Ensuite, pour les éléments grammaticaux et morphologiques, du côté de la conjugaison verbale, il n'y a pas beaucoup de soucis dans la mesure où la conjugaison verbale en persan est même plus riche qu'en français, dans la mesure où les six personnes sont vraiment distinguées par la désinence personnelle. Donc là où en français, par exemple, il n'y a que trois formes, comme au présent, je mange, tu manges, il mange, en persan, il y aurait trois formes différentes pour les trois personnes du singulier et trois formes différentes pour les trois personnes du pluriel. Donc la conjugaison verbale, a priori, ne pose pas de problème pour les apprenants. Le persan est une langue dite prodrope, c'est-à-dire que vous pouvez, comme l'italien, vous pouvez ne pas réaliser le sujet lorsqu'il est pronominal, en tout cas lorsque ce n'est pas un groupe nominal. Mais pareil, ça ne pose pas de problème pour l'apprentissage. à ma connaissance, puisque je n'ai pas l'impression que le fait que le français ne soit pas une langue qui autorise la non-réalisation du sujet pose un problème pour les apprenants. Ce qui pourrait poser problème, c'est que les temps verbaux, les usages en fait des temps verbaux ne coïncident pas toujours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cas où l'imparfait est utilisé alors qu'il faudrait utiliser un passé composé ou un passé simple. Des cas où le plus que parfait, par exemple, n'est pas utilisé alors qu'il devrait être utilisé. Sachant que, je répète, en persan, tous ces temps existent. Donc il y a effectivement l'équivalent des formes simples et des formes périphrastiques ou des formes composées. Et avec à peu près les mêmes répartitions, c'est-à-dire présent, passé, etc. Donc voilà, mais ça, il est extrêmement difficile a priori de savoir où sont les difficultés, mais il y a des difficultés de correspondance entre les temps verbaux. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en persan, l'auxiliaire n'est pas « avoir » mais « être ». Pour tous les temps verbaux et pour tous les verbes. Donc voilà, ça aussi, ça pourrait parfois poser quelques difficultés. Sinon, du point de vue de l'ordre, il y a des différences aussi. Contrairement au français, le persan est dit étant une langue sujet-objet-verbe. Ça, c'est une différence assez importante. Même si l'ordre est relativement libre, dans les phrases dites canoniques, en tout cas à l'écrit c'est sûr, mais à l'oral aussi quasiment, le verbe termine généralement la phrase. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien avoir après. En même temps, l'ordre est beaucoup plus flexible qu'en français. Donc c'est une langue à ordre sujet-objet-verbe, mais c'est aussi une langue où il y a une très grande flexibilité de l'ordre. Donc l'objet peut très bien précéder le sujet, ou aller après le verbe, idem pour le sujet, etc. Mais là encore, on en a discuté pas mal avec Pégan, on n'a pas l'impression que ça pose problème pour l'apprentissage. Donc, je n'ai pas constaté de faute évidente concernant l'ordre des constituants. Par contre, là où il pourrait qu'on ait des problèmes, c'est que en persan, les compléments du verbe, comme le sujet, peuvent être assez facilement émis. C'est-à-dire, si vous posez la question à quelqu'un, est-ce que tu as mangé la part du gâteau que je t'avais laissé, probablement la réponse va être « Oui, j'ai mangé », et non pas « Oui, je l'ai mangé ». Donc, en fait, ça, c'est une des difficultés, par contre, que nous avons constatées et que nous-mêmes, à laquelle nous-mêmes nous avons été confrontés, c'est-à-dire prendre l'habitude de dire « Je l'ai vu, je l'ai mangé, je l'ai pris », etc., c'est assez difficile. Dans la mesure, généralement, on dit « Oui, j'ai mangé, oui, j'ai pris, oui, j'ai vu », et non pas « Oui, je l'ai vu ». Donc ça, éventuellement, c'est une difficulté qui existe. Bon, il y a des cas, effectivement, où... oui, c'est pour les objets pronominaux. Ça, c'est une difficulté. Bon. Autre différence par rapport au français, mais là, ça ne pose pas beaucoup de problèmes non plus. En persan, comme en français, il y a des pronoms dits clitiques ou faibles ou atones et des problèmes toniques ou forts, comme la différence entre moi et je, toi et te, etc. Donc la différence existe. Les contextes d'emploi des pronoms ne sont pas identiques, tout à fait identiques, et leur placement n'est pas identique non plus. C'est-à-dire qu'en fait, qu'en persan, les pronoms clitiques ne sont jamais des pronoms sujets. C'est essentiellement des pronoms objets ou éventuellement toutes les autres fonctions, mais jamais le sujet. Et leur placement est différent du français dans la mesure où ils ne se mettent pas dans une position fixe avant le verbe, mais peuvent se balader un tout petit peu, soit tout de suite après le verbe, sur le verbe. Ce sont des clitiques qui vont après l'élément et non pas avant. Donc ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon des enclitiques et non pas des proclitiques, contrairement au français. Et par ailleurs, ils peuvent ne pas être sur le verbe. Donc en fait, on peut très bien attacher le clitique objet à un autre élément qui précède le verbe. Mais là encore, d'après nos observations, ce n'est pas le placement du critique qui pose problème aux apprenants. C'est beaucoup plus, si vous voulez, l'ordre. Je le lui donne, il me le donne, je te le donne, etc. Quand on en a plusieurs, ça peut poser problème. Et les deux pronoms, bien sûr, vous en doutez, en et i. Mais je suppose que les apprenants du persan ne sont pas les seuls à avoir des problèmes avec des pronoms en et i. Je constate de plus en plus que même les francophones natifs ont des difficultés avec « en ». Donc, voilà, ça, c'est les deux pronoms qui éventuellement posent problème. Et le placement est acquis relativement facilement. Le placement du clitique, c'est-à-dire juste avant le verbe. Bon, maintenant, une autre spécificité du persan, c'est ce qu'on appelle le marquage différentiel de l'objet. Bon, le persan n'a pas de cas, comme le français, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La morphologie nominale est, on va dire, moins riche. Autant le persan a gardé une morphologie verbale relativement riche, autant il a perdu pratiquement totalement la morphologie nominale, un peu comme l'anglais en fait. Donc il y a un pluriel, il n'y a pas de distinction de genre, ça j'ai oublié de le dire, mais ça j'y viendrai sur les noms. Et donc il n'y a pas de distinction de genre, donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'article défini ou indéfini, ou ni de nom féminin masculin, ni d'adjectif féminin masculin. Les noms prennent un suffixe du pluriel. Et par contre, là où il y a des différences, c'est que comme la morphologie est devenue beaucoup plus, on va dire, agglutinante qu'en français, il y a pas mal de choses qui peuvent venir après le nom, après le pluriel, après le suffixe du pluriel. Par exemple, l'article indéfini est une sorte d'affixe en clitique qui vient sur le nom ou qui vient après l'adjectif. Et sinon, il y a effectivement le marquage différentiel de l'objet qui remplit à peu près une fonction casuelle, on va dire, pour simplifier, mais qui marque ce qu'on appelle le complément d'objet défini. Donc tous les compléments d'objet définis en persan sont marqués d'une sorte de postposition, si vous voulez, ou en clitique qui se met à la fin du groupe objet. Mais là encore, ça n'a pas de répercussion sur l'apprentissage du français. Autre chose aussi qu'il faut savoir sur le persan, c'est que c'est une langue qui dispose de très peu de verbes simples. Si on compare avec... ne comparons pas avec l'anglais qui dispose d'énormément de verbes, mais si vous prenez même le français... je ne sais pas exactement combien de verbes il y a en français, je ne sais pas. Le Becherel a 11 000, mais ça ne correspond pas à 11 000 verbes. En tout cas, en persan, il y en a 250, donc le compte est vite fait. Voilà. Donc, et sur ces 250, on en utilise à peu près 150. Ce qui peut paraître frappant, puisque le persan étant une langue indo-européenne, a tout à fait la capacité de convertir les noms en verbes comme l'anglais. Il n'y a aucun souci. À partir de danse, on peut produire danser, à partir de... je ne sais plus, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peur. Oui, c'est vrai, peur, avoir peur, etc. Mais il se trouve que le persan a abandonné ou utilise très peu ce procédé de conversion ou de dérivation et a systématiquement recours aux locutions verbales. L'équivalent, par exemple, de rendre hommage, si vous voulez, tous les verbes, entre guillemets, du persan, ressemble à rendre hommage. Donc, au lieu de dire, par exemple, danser, ça va être danse faire. Au lieu de dire travailler, ça va être travail faire. Au lieu de dire peindre, ça va être peinture, mettre ou frapper. Au lieu, voilà. Donc, quand vous apprenez le persan, essentiellement, vous apprenez une liste de locutions verbales comme ça, qui équivalent à des verbes simples dans d'autres langues. Mais là encore, étonnamment, on pourrait penser que ça pourrait poser problème lorsqu'on apprend une langue comme le français. Mais ça ne pose pas de difficulté, en fait. J'ai rarement entendu un Iranien produire des choses comme « travail faire pour travailler ». Voilà. Ça vient assez naturellement. Donc pour la structure de la phrase, l'ordre, etc., même si le persan est différent, l'apprentissage du français par les locuteurs persanophones ne semble pas poser de difficultés. En revanche, là où il y a des soucis, peut-être c'est plus autour du nom et la détermination nominale. Donc ça, c'est vraiment le paquet est là et les difficultés sont là. Tout d'abord, le persan n'a pas d'article défini. Il y a un article indéfini, mais il n'y a pas d'article défini. Et l'usage des formes nues du nom est relativement fréquente. Donc, on a, contrairement au français, en persan, pour utiliser un nom en syntaxe, pour l'insérer dans une phrase, on n'a pas besoin de l'accompagner d'un déterminant ou d'un numéral ou d'un... Voilà, un nom tel quel peut apparaître dans une phrase. Okay? J'ai livre acheté, par exemple, je livre achète, ou c'est une phrase tout à fait normale, sans problème. Et donc, du coup, une première difficulté pour les apprenants du français, c'est de ne pas oublier systématiquement qu'en français... vaut mieux mettre des articles partout, parce qu'on prend moins de risques, que de ne pas en mettre. Donc, un truc, enfin, outre leur accent, bien sûr, si vous voulez identifier les locuteurs persanophones, écoutez-les, il y a un article qui manque tous les 2-3 mois. C'est, par exemple, je ne sais pas... j'ai lu le livre, et puis... Non, j'ai lu le livre, un livre, ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui reste pendant de très longues années. Et même les locuteurs qui sont en France depuis des années, c'est en fait, c'est, je répète, après l'accent, la trahison est là. Donc tout de suite, vous le voyez sur l'usage des articles, on avale tous les articles. Donc ça, c'est... une difficulté, bien sûr. L'autre, mais bon, cette difficulté, a priori, on peut y... Enfin, il y a des solutions. On peut essayer dès le départ de leur dire, voilà, à chaque fois, n'oubliez pas un nom. Mettez un article avant. Peu importe si ce n'est pas le bon article. Mais il vaut mieux qu'il y ait un article que rien. Autre chose, bien sûr, comme le persan n'a pas de genre, bien sûr, l'autre difficulté, c'est d'apprendre le genre correct associé à chaque mot. Ça, vraiment, notre préconisation avec Pega, le jour où nous, on a appris le français, et si on nous avait dit, au lieu d'apprendre « livre » veut dire, par exemple, « livre », enfin, « ketob » veut dire « livre », par exemple, « apprends le livre, un livre ». Donc, je pense que systématiquement, il faut apprendre les mots, les noms avec... un article, peu importe que ça soit le défini ou l'indéfini, mais il faut l'apprentissage avec l'article ferait que probablement il y aurait moins d'erreurs après sur le choix du genre. Donc ça, c'est une difficulté qui reste, bien sûr. L'autre difficulté, c'est que il n'y a autant il y a l'accord sujet-verbe, ça j'ai oublié de le mentionner, mais ça ne pose aucun problème puisque comme en français il y a un accord sujet-verbe. Donc là-dessus, il n'y a pas d'erreur, mais l'accord au sein du syntagme nominal, par exemple, du groupe nominal entre le nom, l'adjectif, le déterminant, tout ça, ça n'existe pas. Donc effectivement, quand on n'est pas attentif, bon, déjà l'apprendre, c'est difficile, et puis même quand on maîtrise le français, il suffit qu'on soit fatigué, pas assez attentif, etc., et tous ces accords vont sauter. Et donc on va bien sûr avoir recours à la forme plutôt neutre, le masculin. Et on va oublier de faire les accords. Donc ça, c'est vraiment une des difficultés aussi. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment, les difficultés se situent autour, dans le groupe du nom, autour du nom. La détermination, l'accord, tout ça. Bon, bien sûr, comme le persan est aussi une langue qui n'a pas de... qui n'a pas vraiment de pronom relatif. Je ne dis pas vraiment parce que, bon, il y a des restes de pronoms relatifs, mais on les utilise très peu. Et donc, en fait, la stratégie utilisée pour construire une phrase relative, c'est un peu comme le français dit populaire. Hein? La fille que je vis avec elle. Hein? Donc, c'est-à-dire, c'est une complétive, en quelque sorte, qui assume la tâche de la relative. Donc, ce qui fait que à part qui et que, qui sont très bien acquis, il n'y a pas de souci. Toutes les formes comme acquis, dont, sur lequel, sur laquelle, avec lequel, à cause de laquelle, etc. Ça va poser problème. Mais là encore, je disais, quand j'entends mes étudiants, je pense que ce n'est pas seulement le cas des locuteurs persanophones, dont je l'entends quasiment plus. Hein. Voilà. Mais ça, c'est des formes, si on veut avoir, enfin, si on avance un peu dans l'apprentissage de la syntaxe, c'est aussi une des difficultés, c'est-à-dire maîtriser le paradigme des pronoms relatifs et le contexte d'emploi qui soit correct. Sinon, les interrogatives en persan, là encore, bon, c'est un peu comme le français plutôt, disons, standard ou familier, c'est-à-dire, bon, pour les interrogatives totales, tu viens ou pas, c'est comme la phrase déclarative, il y a la prosodie, l'intonation qui change, sinon il y a une sorte d'adverbe ou de mot interrogatif, pas de mot interrogatif, un élément interrogatif qu'on met en tête de la phrase et qui indique qu'il y a une interrogation. Bon, pour les interrogatives totales, c'est-à-dire les interrogatives dont la réponse est oui ou non, il n'y a pas de difficulté d'apprentissage, sauf pour l'inversion du sujet. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, en persan. L'as-tu vu ? Est-elle venue ? Donc, ce genre de choses, effectivement... Non, il n'y a pas d'inversion. Et donc ça, effectivement, ça pourrait poser un peu de difficulté. Pour les interrogatifs partiels qui utilisent des mots interrogatifs, contrairement au français, le mot interrogatif reste dans sa position. Tu l'as vu où ? Tu as fait quoi ? Tu as parlé avec qui ? Et non pas avec qui as-tu parlé, où tu l'as vu, enfin ce genre de choses. Donc voilà.
Je pense que ça.
C'est bon. On a, je pense qu'on a quasiment tout dit.